Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean Roulet.
Bonjour, page feuilletée, l'agenda littéraire de Canal Académie. Depuis les années 70, les sciences du système nerveux connaissent un véritable essor. D'autres disciplines leur font escorte, globalement désignées sous le terme de sciences cognitives. Elles vont de la représentation des connaissances à l'intelligence artificielle. Éminente figure de la neurobiologie, auteur de nombreux ouvrages, Jean-Pierre Changeux nous invite à le suivre à la découverte du cerveau humain. Sa théorie de base est construite sur l'existence d'une double sélection naturelle. D'abord, la sélection génétique, sur le modèle communément admis de Darwin. Elle définit les caractéristiques de notre espèce tout en permettant une considérable variété de modulations individuelles. Ainsi en est-il du cerveau, puisque c'est de lui dont il s'agit. Pendant les premiers mois, il va se structurer. On parle de morphogénèse, une formation qui est programmée par les gènes. Puis, les neurones vont lancer leurs synapses, qui auront pour but de les interconnecter. On parle de synaptogénèse. À partir de quoi, une seconde sélection va jouer son rôle. Elle correspond à l'épigénèse neuronale. Elle se superpose au développement dû à l'action des gènes et joue un rôle considérable dans la formation du cerveau. C'est le processus évolutif de l'épigénèse qui se produit au cours du développement embryonnaire et qui se poursuit après la naissance. Jean-Pierre Changeux tient à le rappeler, le cerveau ne se construit pas comme un ordinateur par assemblage de pièces détachées suivant un plan bien établi. Si tel était le cas, nous dit-il, une erreur de détail, même minime, dans la réalisation de ce programme pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Or, nous ne sommes pas dans le tout génétique. Il y a une épigénèse après la genèse. Le modèle épigénétique de Jean-Pierre Changeux postule que les connexions entre neurones se mettent en place progressivement, de façon très variable, selon un jeu d'essais et d'erreurs. Ce jeu est la clé de tout apprentissage. Les connexions se font très tôt, de façon aléatoire et surabondante, mais aussi transitoire. Dès les premiers stades de son assemblage, des impulsions circulent déjà dans ce réseau, soit spontanément, soit par l'interaction du nouveau-né avec son environnement. Deux types de phénomènes vont entrer en concurrence. D'une part, des phénomènes régressifs, qui tendent à élaguer les liaisons entre les neurones. D'autre part, des phénomènes de bourgeonnement, qui tendent à les régénérer. Pour devenir fonctionnel et se stabiliser, les connexions nécessitent un retour de l'environnement jusqu'à validation par un usage répété. Ainsi décrite, l'épigénèse met en évidence la plasticité neuronale. Elle va s'opérer en fonction des satisfactions ou des déplaisirs que ressent l'individu, encouragement ou reproche, récompense ou punition. C'est la répétition dans le temps des mêmes influx nerveux qui entraînera la stabilisation sélective des circuits. Il en résulte des géométries de connexion assimilables à des graphes de neurones. Les connexions souvent sollicitées demeurent et fixent la mémoire d'une éducation, d'un apprentissage ou des premières expériences de la vie. Les autres connexions moins sollicitées deviennent disponibles ou, pour la plupart, disparaissent. En quelque sorte, ces connexions neuronales que sont les synapses ne s'usent que si on ne s'en sert pas. Soulignons que l'état de stabilité d'une synapse dépend des signaux émis par la cellule à laquelle elle aboutit, la cellule postsynaptique. À partir de ces hypothèses, il a été possible de réaliser un modèle mathématique pour simuler, de façon très simplifiée, l'évolution épigénétique par ce qu'on appelle classiquement un réseau de neurones. On a pu ainsi reproduire dans son principe la sélection des circuits et le processus de plasticité neuronale. Se reporter à l'ouvrage de Jean-Pierre Changeux, « Du beau, du vrai et du bien », le double schéma de la page 280 avant et après convergence du modèle met bien en évidence l'élagage des synapses au cours de la stabilisation épigénétique. Comme le note Jean-Pierre Changeux dans « L'homme de vérité », cette analyse ne met pas fin au débat entre nature et culture, mais elle le place dans une perspective nouvelle. Désormais, on ne peut plus parler de l'inné et de l'acquis sans prendre en compte à la fois les données du génome et leur mode d'expression au cours du développement et l'évolution épigénétique des connexions neuronales. Changeux a donc ouvert l'enveloppe épigénétique à la variabilité épigénétique, à un développement des synapses qui s'étend de l'embryon à la puberté, une phase d'environ 15 ans qui voit peu à peu s'installer ce que Jean-Pierre Changeux appelle, en empruntant un mot à Bourdieu, l'habitus neuronal, c'est-à-dire la façon dont chaque individu va hériter d'une mémoire culturelle, chacun selon son environnement et chacun selon son histoire particulière. Pour Jean-Pierre Changeux, l'homme est donc l'aboutissement d'une épigénèse venue se superposer à des données génétiques. C'est ainsi, par exemple, qu'à partir de données génétiques semblables, les vrais jumeaux pourront évoluer différemment selon leur vécu épigénétique. Jean-Pierre Changeux consacre le chapitre 5 de l'homme neuronal aux objets mentaux, terme générique pour désigner trois notions, le percept, l'image mentale et le concept. Le percept, c'est l'objet tel que nos organes des sens le perçoivent. Pas de percept en l'absence physique de l'objet. Il faut par exemple regarder le Panthéon pour en avoir le percept. Il est alors possible de l'observer tout à loisir, de porter son attention sur l'une de ses colonnes ou encore de les compter. En nous remémorant le Panthéon, l'image mentale qui nous revient, le souvenir de cette perception, est considérablement appauvrie par rapport à l'image que nos sens avaient pu nous offrir, par rapport au percept donc. Cette image mentale, par exemple, ne nous permettra plus de compter les colonnes. L'image sensitive, le percept, aussi bien que l'image mémorisée, l'image mentale, renvoie ici au même concept de Panthéon. Elle l'identifie en tant que telle. Les percepts, les images mentales et les concepts, tous ces objets mentaux correspondent chacun à un état physique d'un graphe de neurones, c'est-à-dire à l'activité électrique ou chimique d'un ensemble associé de neurones. De plus, tous ces objets mentaux possèdent la caractéristique commune de s'enchaîner au fil de l'activité cérébrale, ce qui s'explique, pense-t-on, par la mise en commun de neurones. L'arrivée de l'impulsion électrique dans une terminaison nerveuse provoque la libération d'une certaine quantité de neurotransmetteurs. Ainsi se forment nos objets mentaux, ainsi s'enchaîne notre activité mentale. Autre figure marquante de l'Académie des sciences et de la neurobiologie, Jean-Didier Vincent décrit ainsi ce mécanisme. Les neurones se parlent grâce à la multitude de leurs contacts synaptiques, qui, poursuit-il, se font et se défont, s'ouvrent et se ferment en fonction des signaux électriques et chimiques qui les animent. Une population innombrable et changeante, grouillante d'un va-et-vient et d'un remodelage incessant. Ou, pour le dire comme Jean-Pierre Changeux, la machine cérébrale possède la propriété d'effectuer des calculs sur les objets mentaux. Elle les évoque et les combine et, de ce fait, crée de nouveaux concepts, de nouvelles hypothèses pour finalement les comparer entre eux. Elle fonctionne comme un simulateur, ce qui donne à la pensée son pouvoir de prédire les événements. D'où la conclusion de Jean-Pierre Changeux que le corps et la pensée sont de même nature, qu'ils fonctionnent de la même manière et ensemble. Le cortex cérébral renferme 10 milliards de neurones interconnectés entre eux. Certaines zones du cerveau, les aires corticales, sont spécialisées dans certaines fonctions. Par divers procédés d'imagerie cérébrale, il a été possible d'en dresser une carte. Pour analyser plus en détail un objet mental, prenons l'exemple du percept donné par Jean-Pierre Changeux à partir de la page 182 de L'homme neuronal. Un message visuel en provenance du nerf optique va être dirigé par le thalamus vers un certain nombre de ses aires. La formation du percept global va en mobiliser plusieurs, la 17, la 18, la 19 et la 21 dans son exemple. L'une d'elles, l'aire primaire, ici la 17, se trouve hiérarchiquement au-dessus des autres, dites secondaires. Chacune a son rôle et, en coopérant, elles vont aboutir au percept. C'est ainsi que chaque objet mental est un arbre qui cache sa propre forêt. Et cela méritera une autre réflexion sur la complexité du cerveau. Supposons maintenant que cet arbre soit du bois dont on fait habituellement la métaphysique, c'est-à-dire que l'objet mental soit une notion de valeur, d'ordre esthétique ou moral, comme le vrai, le beau ou le bien, il va falloir parler de neuroesthétique ou de neuroéthique. Et voilà qui n'ira pas sans déclencher un certain remue-ménage philosophique. Nous poursuivrons notre lecture de Jean-Pierre Changeux et il y aura encore matière à dire sur cette matière pensante qu'est notre cerveau. Merci de votre attention et à bientôt pour un nouvel agenda littéraire sur Canal Académie.